Yves, et je remercie Yves Le Pessizé de faire cette communication. Je vais rester devant l'estrade pour que vous m'entendiez mieux, puisqu'il n'y a pas de micro et que ma voix part de temps en temps aujourd'hui.
Il n'y a pas de micro.
Non. Donc voilà, je vais faire ce que je vais pouvoir pour que vous m'entendiez. D'abord, je voudrais vous dire qu'une partie de cette communication, celle qui concerne la langue d'oc, a une origine dans un article que j'avais écrit pour La Plume d'Oie, la revue des anciens élèves du lycée Saint-Cernin, qu'avait créé ma mère, à elle qui m'a appris les mots et à mon père qui m'a appris à entendre la langue de la nature. Je voudrais dédier cette communication. Et je voudrais aussi remercier messieurs les professeurs Dorchy de l'école vétérinaire de Toulouse et le professeur Amara de l'école vétérinaire de Sidi Tabet en Tunisie pour l'envoi d'une liste de mots d'origine arabe et l'ami d'origine tunisienne qui m'a éclairé aussi sur l'origine de certains mots. Alors parler de la langue française inventive métisse, c'est retrouver dans notre français moderne des racines venues du monde entier et de toutes les époques. Et en ce lieu qui est le siège de plusieurs académies, je rappellerai que le mot « académie » vient du toponyme grec « academia », qui était le jardin du héros Académos à Athènes où enseignait Platon, un jardin pour parler de philosophie. Et plus prosaïquement, je voudrais d'abord préciser que je suis une béotienne dans l'art de l'étymologie, en rappelant que le mot vient de la province de Béotie et que ses habitants étaient tenus par les voisins d'Athènes comme particulièrement stupides, nous dit Jacqueline Picoche. Donc je vais quand même essayer de trouver un chemin entre le philosophe grec et les habitants de Béotie vus par les Athéniens. Les langues méditerranéennes ont la plus grande part dans la construction des mots français, le latin et le grec constituant les deux principales sources, avec également des mots arabes et des mots de la langue d'oc qui viennent sculpter notre langue moderne. La langue glisse d'un idiome à l'autre, c'est une langue continuellement en mouvement qui, par ses transformations, reflète l'histoire et les mouvements des peuples. Le métissage apparaît comme un signe du métissage de la langue, où les mots désignant les étoffes nous font faire un tour du monde. Henri Mounier nous a éclairé dans sa passionnante communication sur la place du grec dans la langue française. Il a rappelé que des statistiques ont été faites disant que 75% des mots du français proviennent du latin, 12% du grec, 8% des langues germaniques et 5% des autres langues. Mais ces statistiques prennent-elles en compte, par exemple, les mots latins qui déjà viennent d'une autre langue, ces passages et ces glissements de langue en langue qui s'enrichissent les unes des autres? Si on prend l'exemple de la barque qui vient d'un mot latin, ce mot latin vient lui-même d'un mot grec qui, lui, vient d'un mot égyptien. On fait ainsi un tour de la Méditerranée pour désigner cette petite embarcation. Tant que l'on est dans le domaine du voyage, pensons à la douane, qui est un mot entré dans les langues romanes par le latin, auquel elles l'ont emprunté, lui-même emprunté à l'arabe diwan, emprunté au persan, qui a donné à la fois la douane et le divan. La guitare, elle, est formée d'un mot git, venu du sanskrit sangeta, qui signifie musique, et d'un mot perse, tuttar, qui signifie corde. Le mot est ensuite passé par le grec kithara, puis par l'arabe, qui a donné l'espagnol et le français. Dans ce voyage des mots, on pense encore au basalte, qui vient bien sûr d'un mot latin, mais qui vient lui d'un mot éthiopien, ou au lila, qui, nous dit le Littré, vient de l'arabe lilac, qui, d'après Dosi, est le persan lilac ou lilang, qui veut dire indigo. On pense aussi à l'abricot, qui vient de l'espagnol, venant lui-même de l'arabe albircouf, l'arabe venant du bas grec, qui vient du latin praepocum, nom donné à l'abricot car il est un fruit précoce. Le mot est une forme de l'adjectif latin praecox, qui a ensuite donné tous les autres termes en voyageant d'une contrée à l'autre. Comme le fait remarquer le Littré, c'est par l'intermédiaire de l'arabe qu'un mot latin est revenu dans les langues romanes. Nous verrons aussi que certains mots français sont revenus dans la langue française par l'intermédiaire de l'anglais. Quelques rappels étymologiques vous montreront que lorsque vous parlez français, vous parlez en fait des langues du monde entier. Le mot français lui-même est comme un clin d'œil pacifiste du destin, il est d'origine germanique, comme le souligne Alain Rey. Ainsi, l'adjectif et nom français, française, vient non pas du latin, langue source du roman devenu ancien français, mais de l'ancien bas-francique, langue germanique disparue, des francs mérovingiens, où franc signifiait brave, mais aussi libre et aussi errant, ce qui cumule nomadisme et liberté. Nomadisme et liberté, deux mots qui conviennent si bien à cette langue considérée aussi comme celle des poètes et de l'amour. Pour parler de cette langue métissée, toujours en mouvement, inventant sans cesse des mots et des expressions, je me concentrerai d'abord sur la langue à laquelle le français s'est substitué dans notre région pour des raisons de puissance politique, la langue d'oc. Le sculpteur Antoine Bourdel écrivait « Ce que j'aime le mieux du langage de France est ce que j'ai gardé du dialecte des anciens, nous le nommons langue d'oc ou langue romane. Quant au style de ma sculpture, il suit beaucoup celui du langage roman. » Peut-être que cette déclaration d'amour du sculpteur auteur de l'Héraclès, statue qui représente le héros grec, en hommage au grand joueur du Stade Toulousain et de l'équipe de France, Alfred Messonnier, tué à Verdun le 6 septembre 1914. Et son histoire est racontée par Paul Boisvenel, qui voulut cette statue en hommage à Messonnier. Statue donc qui réunit les origines grecques et les racines de chez nous, peut-être donc que dans les mots du sculpteur, on peut lire un signe qui nous suggère de voir dans la langue une sculpture sans cesse modelée et retravaillée dans l'argile des mots venus de partout. Ce qu'exprime le sculpteur dans cette phrase où il relie langue et sculpture, c'est cette force essentielle dans laquelle il retrouve sa terre, celle dans laquelle il sculpte ses créations, cette terre qu'il modèle et qui lui parle. Argile, j'y lis la jarre, écrit l'écrivain ethnologue Michel Léris, qui voit dans la terre l'objet créé, la jarre, mais aussi la langue qui le nomme. Toute langue vit d'abord de la terre de ceux qui l'ont fait naître. Et la phrase de Bourdel peut peut-être laisser apercevoir dans ces langues romanes ou langues latines l'image de la terre à laquelle elles appartiennent, les paysages qui les font parler. L'espace méditerranéen est présent dans l'évolution historique de la langue, mais il est aussi présent dans le chant des mots, dans ses intonations mélodieuses presque chantées de l'espagnol ou de l'italien, dans cet accent rauque du portugais, dans cet accent rocailleux de la langue d'oc, dans notre accent toulousain, enfin, seule trace qui reste quotidiennement de la langue que parlaient nos ancêtres. Dans cet accent s'entend le chant des montagnes, la roche s'entend en elle, d'où le mot qui désigne en français cet accent rocailleux qui porte en sa dénomination l'image de la roche. Le paysage de leur origine semble se dessiner quand on entend ces langues sculptées entre mer et montagne, et le lexique s'ouvre dans sa similitude entre les langues sur les paysages qu'il dessine. La mer, terme à sonorité fermée dans les langues anglo-saxonnes et germaniques, si en anglais, mer en allemand et en néerlandais, est ouverte et claire dans les langues romanes, mer en français, mar en espagnol et en portugais, mare en italien. L'océan, quant à lui, tire son nom d'une divinité marine grecque, Okeanos. Là encore, la mythologie méditerranéenne se redessine dans le seul lexique des langues romanes. Et tous ces mots qui se ressemblent dans des langues différentes expriment leur origine commune. Le volcan nous vient du dieu romain du feu, Vulcain. La géographie a souvent utilisé dans la désignation des espaces vierges des termes venus de langues de la Méditerranée. Même le monde arctique est désigné à partir du mot grec arctos signifiant ours en fonction de sa situation par rapport à la grande ours, comme le monde antarctique. Et tous les archipels du monde trouvent leur origine dans le grec byzantin archipelagos, c'est-à-dire mer principale, mot qui désignait en fait la mer Égée, dans laquelle se trouvent de nombreuses îles. Ainsi, ce terme, qui vient du grec et a été adopté par les langues latines et même par d'autres langues non latines comme l'anglais, contient en lui non seulement la langue méditerranéenne de ses origines, mais l'espace même de ses origines, la mer Égée, qui se projette ainsi par le jeu de la langue dans toutes les mers du monde. La langue fait entrer en elle l'espace où elle est parlée. À l'inverse des langues anglo-saxonnes et germaniques, où le chemin, way en anglais, weg en allemand, et l'action de marcher sont deux éléments distincts, to walk en anglais, gehen en allemand, la langue française intègre le chemin à l'acte de la marche, cheminer. De même, la montagne entre dans la dénomination de l'acte qui consiste à la gravir, monter. Le mot marcher, lui, viendrait d'un terme germanique, marque, qui signifie signe, l'allemand marca désignant un signe marquant une frontière, le verbe marcon signifiant imprimer des signes et donc laisser des empreintes. Marcher et marquer ont donc la même origine, et marcher, après tout, c'est bien laisser une écriture sur la terre avec ses pas. Le lien entre la langue et l'espace méditerranéen, la langue et la pierre romane, apparaît aussi dans la gestuelle qui s'exprime par les mots et que les hommes de la terre ont su préserver. Il y a des langues que l'on a voulu effacer, comme la langue d'oc dans son ensemble, comme beaucoup de langues non officielles interdites aux enfants des écoles dans divers pays à diverses époques. Sans les poètes, Mistral, Jasmin et d'autres, et sans un renouveau des langues dites régionales, la langue dans laquelle Dante a failli écrire la Divine Comédie, puisqu'il a hésité longtemps entre l'italien et la langue d'oc, la langue des troubadours aurait pu disparaître. Ce sont les poètes et les gens de la terre, les paysans de l'Aragon, du Comminges et de toutes les Pyrénées, les Provençaux, qui l'ont sauvée. Ce sont ceux qui ont voulu garder la langue de leur terre, qui ont vu en elle le chant de leur terre, qui lui ont permis de survivre à la domination d'une autre langue. Les mots les mieux préservés dans la langue d'oc sont ceux qui se rattachent au métier de la terre, aux traditions, à la vie des troupeaux. Et c'est parce que ces mots ont été conservés dans leur langue qu'ils ont pu entrer dans la langue française. L'ori, par exemple, ce petit abri de pierre que l'on rencontre dans les montagnes pyrénéennes, dans le haut vide de Sceaux et dans les Pyrénées orientales, vient du catalan, mais c'est un contresens qui a fait du mot l'image de ces petits abris, car au départ, il s'agit d'un quartier de pâturage. Il porte d'autres noms ailleurs, qui pourtant sont intégrés aux français de ces montagnes. C'est le bori ou la borie provençale, au Pays basque, c'est la caillola, et en français général, la baraque, comme le cabanon, sont d'origine provençale. Tous ces abris discrets nous parlent les langues romanes qui tout aussi discrètement se glissent dans le français. Si j'insiste sur la langue d'oc et ses capacités à résister, c'est pour montrer comment une langue non officielle qui a failli être effacée par la langue officielle peut se retrouver en elle en lui offrant ses vocables et parfois ses structures ou ses expressions. Il existe un rapport étroit entre la langue et la terre qui l'a engendrée, le rapport que la langue établit entre l'homme qui l'a créée et le monde où elle continue à vivre. L'homme et la terre ont d'ailleurs la même origine dans les langues latines, homo, humus, ce qui révèle bien le lien que ces langues établissent entre les deux. Les gestes se lisent dans les mots. Le mouvement de celui qui arrache apparaît dans le doublement du R du verbe français. L'espace transparaît dans l'univers humain nommé par les langues latines. Le tailleur de pierre français contient dans le nom qui le nomme à la fois la pierre qu'il taille et le geste de l'ouvrier. Comme Bourdelle qui voit dans sa sculpture l'écho de la langue romane, les mots de la langue retrouvent dans leur formation même le geste de l'ouvrier. L'identité du tailleur de pierre réside dans l'union de son geste avec la matière. Le forgeron contient dans son nom français l'outil qui lui permet de travailler le fer. L'ébéniste fabrique des meubles d'art qui, à l'origine, étaient en ébène. Dans son cas, ce n'est pas le geste ni l'outil qui apparaît dans son nom, mais la matière. On peut s'interroger sur la différence d'origine entre l'horticulteur et le jardinier. En fait, c'est pas vraiment une différence de date. L'un et l'autre cultivant des plantes. Les deux mots viennent d'un terme qui signifie « jardin » et le jardinier a des origines plus anciennes puisque l'horticulteur voit son nom formé à partir du mot latin « hortus » alors que le jardinier, formé sur le mot « jardin », revient aux origines du mot « hortus » formé à partir du mot indo-européen « gorto » qui va donner la cour mais aussi le jardin français comme le garden anglais ou le garde allemand. Restons dans la culture de la terre. Aujourd'hui, le jardin est agriculteur car le mot paysan gêne parfois et on se demande bien pourquoi. L'agriculteur est certes, selon l'étymologie latine, celui qui cultive les champs. C'est son activité qui est mise en valeur. Tandis que le paysan est un si beau mot, d'abord parce qu'il lie l'homme au pays, à la terre, et montre dans celui qui la cultive l'homme de la terre. Mais aussi, étymologiquement, il est relié au mot « paix ». Ce mot vient en effet d'une racine indo-européenne « pac » qui signifie « enfoncer ». Le mot latin « pacare », pacifié, vient de deux mots issus tous les deux de l'agriculture, deux outils, deux instruments utilisés dans le monde agricole, pala, issu de paxla, la bêche, et palus, issu de paxlos, le pieu. Ceci a donné pagina, terme d'agriculture encore, désignant une vigne plantée dessinant un rectangle, mot qui a donné le pagus, d'abord désignant une borne, puis par extension un district rural. Et donc le paganus était celui qui habitait le district rural, le paysan donc, qui a aussi donné le mot païen, puisque les campagnes ont été christianisées dans l'Empire romain après les villes. Ainsi, le paysan, comme le paysage, comme le païen et comme la page, Michel Serre a souligné le rapport entre paysage et page dans la Légende des sciences, ont leurs origines dans un mot qui signifie « paix ». Dans le paysan français, le paysan gascon, le paysan corse, le campesino espagnol, le campones portugais ou le taran roumain, tara signifiant la campagne, se lie le pays d'où il vient, la campagne, la terre. Il n'est pas comme en allemand celui qui travaille la terre, Landarbeiter, il est de la terre. La terre est en son nom comme il est en elle. Il y a donc dans les langues romanes une union étroite entre l'homme, le mot et l'espace. Et comme le paysan est l'homme de la terre, le marin est l'homme de la mer. Alors que l'anglais voit en lui le rapport de l'homme au bateau, à l'acte de naviguer, à la voile, sail et sailing, le français et les langues romanes y voient le rapport à la mer. Il existe malgré tout en anglais également le terme mariner, forgé sur le latin, et donc attachant le marin à la mer, mais il est moins usité, plus ancien. Le pâtre, lui, contient dans sa désignation les pâturages, alors que les mots anglo-saxons et germaniques ne contiennent que la notion de garde, shepherd en anglais, kirt en allemand. Et puis, il y a tout un jardin méditerranéen retrouvé dans les mots, et la langue d'oc y tient une place importante. La vigne, la figue, la mûre, la rose sont empruntées à une langue méditerranéenne et venues ensuite au latin en passant par le grec. De même, toutes ces plantes qui embaument la Provence portent en elles ce parfum méditerranéen, tel le thym ou le serpolet, venu du provençal par le latin. D'autres parfums, plus lointains, ont cependant adopté l'espace méditerranéen tout entier par leur dénomination. Le benjoin, venu des Indes, est entré dans les langues romanes par d'autres langues méditerranéennes. C'est un mot arabe à l'origine, qui apparaît au Moyen-Âge en latin et en grec, et va devenir le benjoin en pénétrant en France par le portugais, par les joints, ou des formes équivalentes catalanes ou italiennes. Et ce jardin va s'étendre sur la planète. C'est le propre du monde animal et du monde végétal, que de voir le nom des origines accompagner tous ces êtres vivants dans un grand nombre d'idiomes. Et on va voir que le tissage apparaît comme un signe du métissage dans le français moderne. Une langue n'est jamais une. Elle se tisse des mots de tous les peuples qui passent un jour sur la terre où elles se parlent et des terres qu'ils ont foulées. Les mots de la langue française désignant les tissus apparaissent ainsi comme un signe de ce tissage des cultures et des langues. La manière de nous vêtir rappelle par les mots l'origine géographique multiple de notre environnement quotidien. Lorsque nous utilisons de la maroquinerie, nous nous rappelons en la nommant que c'est au Maroc que l'on prépare le cuir, appelé maroquin par la suite. Lorsque nous allons chez le cordonnier, c'est l'Espagne qui se lit dans son nom, évoquant dans l'ancien français le cuir de cordoue.
L'Espagne se retrouve dans certaines couleurs, comme le beige, du latin baeticus, qui signifie de la province de Bétique, province du sud-ouest de l'Espagne, où il y avait une laine réputée. Ce mot désignait donc au départ une laine de couleur naturelle. La chéchia vient de l'arabe algérien chachia, lui-même forgé à partir de la ville de Chach, en Perse. Le baldaquin vient de l'italien baldacchino, désignant une étoffe de soie, nommée à partir du nom baldaco, qui est l'ancien nom de Bagdad. Les noms des étoffes chantent souvent la terre arabe de leurs origines. Les nappes damassées rappellent la ville de Syrie, d'où vient cette étoffe. La mousseline, de l'italien mussolina, venant lui-même de l'arabe mosile, désigne une étoffe de Mossou, ville de Mésopotamie, aujourd'hui en Irak. Le tafta vient d'un mot turco-persan, le jute vient du bengali en passant par l'anglais. Le madapolan, qui est un tissu de coton blanc, tire son nom d'une ville de l'Hindoustan. La gaze, elle, rappelle la ville de Gaza, en Palestine. Et parfois, c'est simplement la Provence qui apparaît dans un élément du costume, comme la martingale, nommée à partir du provençal martégal, un féminin de martégal, nom des habitants de Martigues. Le mot voulait dire, au départ, à la mode de Martigues. La jupe vient de l'arabe juba, désignant un long vêtement de laine. Les pantoufles viennent de l'italien pantofla, qui est une abréviation d'une expression sicilienne qui désignait des chaussures de liège, du grec panto, tout, et phélos, liège. Nos espadrilles confortables, nommées à partir d'un mot d'un dialecte pyrénéen, espadrillo, lui-même venu du latin spartum, désignant une sorte de jonc qui servait à faire des nattes, réunissent ainsi les Pyrénées et la Méditerranée. Et ces châles de mérinos, portés autrefois dans les Pyrénées françaises et espagnoles, rassemblent dans leur simplicité quotidienne les montagnes aranaises, rudes et sauvages, et l'espace lumineux de la terre des Berbères. Le mot vient en effet de l'espagnol merino, qui désignait une race de moutons, et qui était sans doute l'altération du nom d'une tribu africaine, les Benimeri. Ce nom a été donné en raison de l'importation de produits berbères qui étaient destinés à améliorer la race indigène espagnole. Et les bergers pyrénéens rejoignent ainsi les nomades berbères dans le simple nom donné à la laine de brebis venue d'une autre terre méditerranéenne. Les vêtements peuvent aussi venir de personnages littéraires et mythiques, comme nos pantalons, qui viennent du célèbre personnage de la Commedia dell'arte, Pantalon, vêtu d'un habit vénitien tout d'une pièce. Mais à l'origine, il s'agit d'un saint vénitien, vous avez à Toulouse la rue Saint-Pantaléon, dont le nom signifie en grec tout miséreux. Mais les tissus et leurs noms ne viennent pas que du monde méditerranéen. Le satin est nommé d'après une ville de Chine. Le cachemire vient des montagnes de l'Inde. Il s'agit du nom d'un royaume de l'Asie. Le tweed vient d'Écosse. C'est le nom de la rivière près de laquelle ces tissus étaient fabriqués. En revanche, la soie et la laine viennent du latin, tandis que le coton vient de l'arabe, en passant par le portugais et l'espagnol. La cheviotte est une laine de mouton venue des monts Cheviot, en Écosse. Et donc, lorsque nous nous habillons, nous parlons des langues venues de tous les continents. Le matelas est un de ces mots qui ont voyagé avant d'entrer dans la langue française. Au départ, c'est l'arabe al-matrasha qui désignait la couverture dont on garnissait les bêtes de somme, qui a donné le latin materacu, et puis les mots italiens, espagnols, catalans, même wallons et français, nous dit le littré. Parmi les noms de lieux qui ont donné des noms communs dans la langue française, on peut citer ces mots non liés au textile, mais qui nous proviennent de noms de lieux venus du monde entier, comme le kaolin, utilisé pour la fabrication de la porcelaine, et qui tire son nom d'un mot chinois, et le nom de la colline élevée où l'on extrayait le kaolin. De même, la faïence vient de la ville italienne de Faenza, le cuivre qui tire son nom de l'île de Chypre. Et pour rester dans les noms de lieux, la bauxite tire son nom du fait que le premier gisement a été signalé au Bois de Provence, l'agate a été nommée à partir d'une rivière de Sicile, et le geyser vient du toponyme islandais geysir, lieu connu pour son geyser. Et le nom vient lui-même d'un verbe islandais, biosa, qui signifie jaillir. On peut mentionner aussi l'aveline, cette grosse noisette dont le nom vient directement du latin abeliana et qui a été désignée à partir d'abelia en Campanie. Le coin, lui, vient du latin cotoneum, lui-même issu, ce qui n'est pas du tout la même origine que le coton qui est arabe, et qui a été désigné à partir, qui rappelle l'expression Coudonia mela, pomme de Coudonia, qui est une ville de Crète. Et quand vous dites d'un aliment qu'il est amer comme chicotin, le mot chicotin désigne du suc d'aloès et c'est une déformation de socotin. Produit de l'île de Socotra, dans la mer Rouge, nous dit Jacqueline Picoche. Quelques mots rapides sur la langue des sciences. L'arabe, langue parlée sur la terre des plus grands mathématiciens et des médecins, a donné logiquement nombre de noms mathématiques. Le zéro est arabe, le chiffre est arabe, et si l'arithmétique est grecque, l'algèbre est arabe, comme les algorithmes nommés à partir d'un mathématicien Al-Khwarizmi. La chimie sont d'origine arabe, l'alambic est arabe, mais celui-ci a été emprunté à un terme gréco-romain. Encore et toujours, les mots voyagent. Et bien sûr, tous les mots d'ergie, écologie, biologie, zoologie, viennent du grec logos, doctrine et par extension, science. Mais il n'y a pas que le mot grec logos pour évoquer les sciences, et par exemple le mot folklore, emprunté à l'anglais, est formé de deux mots saxons, folk, le peuple, et lore, qui désigne la connaissance, la science. Donc, la langue française est un reflet du voyage et de la route. Le temps et l'espace s'inscrivent dans les mots qui retrouvent parfois leur mémoire dans le souvenir mythologique. Le calendrier français a son origine dans les calendes romaines, alors que l'almanach véhicule des racines méditerranéennes venues du nord de l'Afrique, puisqu'il vient du syriaque, emarai, qui veut dire en l'année prochaine. Il a été transformé et est entré dans les langues romanes par l'arabe d'Espagne, puis le latin médiéval. Quant aux jours de la semaine, ils sont forgés à partir de la mythologie romaine, pour la plupart d'entre eux, mardi est le jour du dieu Mars, mercredi le jour du dieu Mercure, jeudi le jour de Jupiter, et vendredi le jour de Vénus. Les langues anglo-saxonnes et germaniques, elles, ont gardé dans leur étymologie les jours dédiés aux planètes, lundi, Monday en anglais, Montag en allemand, jour de la lune, dimanche, Sunday en anglais, Sonntag en allemand, le jour du soleil, et aussi aux dieux des mythologies scandinaves et germaniques. Seul le samedi, Saturday, y a gardé la référence romaine à Saturne. Pour le dimanche, la référence païenne au soleil en anglais et en allemand est remplacée en français et dans les autres langues romanes par la référence chrétienne, le dimanche étant le jour du Seigneur, domingo en espagnol et en portugais, domenica en italien. Quant aux mois, certains ont leur nom forgé à partir des noms des empereurs romains, juillet nommé à partir de Jules César, août mot formé à partir du nom donné à Octave, devenu l'empereur Auguste et qui par la suite a désigné le mois qui lui était consacré. Ainsi, les mots écrivent leurs racines latines et le simple fait de répondre à la question « Quel jour sommes-nous ?» ramène celui qui parle par le temps présent au passé des origines mythiques de la langue. Le temps historique et le temps mythique s'inscrivent dans le temps quotidien par le seul jeu des mots. On reste dans le monde mythologique latin lorsque l'on parle de la monnaie, puisque le terme moneta qui lui a donné naissance était le surnom de Junon, Junon moneta, celle qui avertit, dans le temple de laquelle on frappait la monnaie à Rome. Et même le monde naturel, dans ses désignations, se fait parfois reflet de l'imaginaire et des mythes. Ainsi, la colchique a été nommée, en raison de son caractère vénéneux, à partir de la colchide, patrie du personnage de la mythologie grecque Médée, fille du roi de Colchide, magicienne, qui utilisait ses préparations et ses dons rarement à des fins positives. Il y a aussi des origines bibliques et ou chrétiennes, comme dans le mot zizanie, qui nous vient de la parabole de Livré dans l'évangile de Matthieu, le grec zizania désignant Livré. Dans les racines liées au christianisme, qui penserait qu'en nous reprochant le caractère acariâtre de certaines personnes que le mot a une racine très positive, pour certains étymologistes, même s'il signifie privé de raison et par extension de mauvais caractère, il aurait été forgé sur le nom latin de Saint-Acaire, Acarius, qui passait pour guérir la folie, appelée en ancien français le mal Saint-Acaire, nous dit Jacqueline Picoche, qui pense aussi que le nom du saint a pu être assimilé à l'adjectif latin « acer » signifiant « aigle ». Il y a eu probablement un chevauchement des deux étymologies possibles. Et dans ce temps latin, retrouvé chaque jour, on passe sur des routes venues elles aussi du temps de Rome. Voies, viaducs et aqueducs transportent le temps latin historique sur les routes quotidiennes du présent. Le voyage contient la route, tant en français qu'en espagnol, en italien et en portugais. La voie, la via, l'espace du voyage sont présents dans le mot, contrairement à l'anglais « travel » qui vient du français « travail ». Ou à l'allemand « Reise ». Et lorsque les bergers conduisent les troupeaux dans les pâturages au printemps, lors de la transhumance, le mouvement des bêtes contient dans le terme qui le nomme la terre, ou mus latin, que traversent ces troupeaux, France. Cette terre, lieu du voyage, véhicule des langues dans ce bassin méditerranéen si riche. Les langues romanes vont précisément réunir la plupart des idiomes parlés autrefois ou aujourd'hui dans les régions méditerranéennes. Et puis l'espace nommé rappelle les espaces du monde. La jungle vient de l'anglais, le terme anglais étant lui-même emprunté à l'hindoustanie, qui vient lui-même d'un mot sanskrit signifiant espace naturel et sauvage. La toundra est un mot russe, tout comme la steppe, la taïga, c'est aussi un mot russe et qui vient de l'altaï. La pampa est un terme quechua qui désigne la plaine. La garrigue est un terme occitan, le maquis vient de l'italien, la dune vient du celte. Le lapias, comme vous en avez en montant au pic d'Ani, vient du latin et du vaudois. La savane vient de l'espagnol. Le bayou vient d'un mot choctaw qui signifie serpent en raison des méandres du Mississippi. La mangrove vient de l'anglais, mais le mot était lui-même issu des langues dravidiennes, des langues de l'Inde, dont le malayalam. La croix, pleine semée de pierres, vient du celte, comme le cairn que connaissent bien les montagnards, et qui signifie un amas de pierres en celte. Il y en a beaucoup d'autres qui désignent chacun l'espace d'où vient le mot. Les mots naissent bien évidemment là où existent les choses. Et tous les mots liés au monde animal et au monde végétal sont le reflet de tous les voyages d'exploration ou de colonisation effectués par les peuples d'Europe sur des terres nouvelles pour eux. Ainsi, si certains noms français sont d'origine quechua, comme la bigogne, ou aztèque, comme la tomate de chocolat, S'ils appartiennent à une langue d'Australie comme le kangourou ou sont d'origine algonquine comme le poisson, peul comme l'igname ou toupie comme le jaguar, alors que les bouquetins sont nommés à partir d'un dialecte savoyard et que le nom des isards vient d'un terme basque, c'est que les animaux et les plantes ne peuvent exister dans la langue que lorsqu'ils existent sur une terre où ils ont été nommés par ceux qui vivaient avec eux. Les autres peuples ont alors gardé le nom originel dans leur propre langue, introduisant ainsi dans leur langue maternelle les idiomes du monde entier. Ils soufflent sur ces langues des vents venus des terres du monde où leur immatérialité, qui fait avancer les navires et qui respirait la terre, a été modelée en des termes chantants. Le typhon serait un mot chinois, taifon, signifiant grand vent, et ou japonais, taifu. Il aurait pu donner le mot arabe toufan, le mot grec et le mot latin qui ont donné typhon. Et le mot serait ainsi entré dans les langues modernes. Selon certains, il s'agirait du croisement entre ces deux origines. Selon d'autres, le mot aurait été rapporté par un marchand vénitien lors d'un voyage en Chine. Dans tous les cas, il révèle combien il est nécessaire au mot de bouger pour qu'une langue se construise ou se complète. Pour en revenir au phénomène météorologique et singulièrement au vent, toutes les bourrasques viennent du grec, boréas, vent du nord, en passant par le latin, et elles accompagnent tous ces vents méditerranéens, le mistral, mot provençal donné du latin, le sirocco, mot arabe introduit par le génois, le simoun, mot arabe, l'otan, mot provençal venu d'un terme latin désignant un vent de haute mer. La tramontane, mot provençal désignant l'étoile du nord, et donc le vent du nord, par un mot latin à l'origine, qui voulait dire le vent qui vient à travers la montagne. Brassens l'a chanté, parce que son nom chantait, parce que son souffle parlait ses langues multiples et unies. Ces vents nommés par la langue populaire font entendre le métissage lumineux de cette terre que les langues ont creusé, modelé, sculpté, construite. Et les langues de l'oralité vont entrer dans le français. Le français est une langue de l'écrit, et pourtant des langues orales y sont entrées, faisant ainsi danser la langue dans leur musique. De la lyre venue du grec, au violon ou à la trompette venue du provençal ou au piano désigné par un adverbe italien indiquant seulement un rythme harmonieux, à d'innombrables instruments désignés dans la langue de la région dans laquelle ils sont joués, la musique fait évoluer la langue en transformant d'abord ses sonorités. Et elle fait entrer d'autres cultures dans notre langue. Pour ne prendre que quelques exemples, le luth, emprunté à l'espagnol, vient de l'arabe, le tam-tam d'Afrique, le tambour et la guitare, qui viennent de l'arabe, du persan et du turc, nous rappellent leur pays d'origine. En revanche, le didgeridoo d'Australie, tout en introduisant une autre culture dans notre langue, nous parle de colonisation, puisqu'il ne s'agit pas d'un des multiples noms donnés par les aborigènes, comme le didaki, le moulot, et il y en a beaucoup d'autres, mais du nom formé par les colons à partir du son qu'ils entendaient. On a vu que l'arabe avait donné nombre de mots de la langue scientifique, mais pas seulement. Le café, par exemple, est emprunté à l'arabe, écrit kawa, prononcé kave à la turque, qui désignait la boisson, et non l'arbre ou le fruit. De Vic, dans son dictionnaire étymologique, note que le mot kave a longtemps été un des mots désignant le vin. Quant au mocha, il désigne au départ le café venant de Mocha, qui est une ville d'Arabie. Le sucre vient aussi de l'arabe, sukar, qui vient lui-même du persan, shakara, qui vient du sanskrit, sarkara. La tasse vient aussi de l'arabe. Parmi les mots courants, le magasin est un mot arabe quasiment inchangé, puisque le pluriel de l'arabe marsen est marhazin, et signifie dépôt de marchandises, du verbe hasan, amasser, rassembler, milieu lutré. Et l'orange vient aussi de l'arabe naranj, qui a donné tous les mots désignant ce fruit dans les langues romanes. Pour ce qui est des langues d'Afrique, il y a d'une part le français parlé en Afrique, où des expressions imagées viennent s'ajouter au français classique, juste quelques-unes. Par exemple, les hommes coquets sont désignés de diverses façons. Au Bénin, ce sont des jaguars, à Brazzaville, des sapeurs, parce qu'ils sont bien sapés. Pour dire au Burkina Faso que c'est dur, on dira c'est caillou, pour désigner les cailloux sur le chemin. En Côte d'Ivoire, un caillementeur, c'est un bûcheur, celui qui se lève la nuit pour aller travailler, comme le caillement revient à la surface de l'eau une fois que les chasseurs sont partis. Et curieusement, cela rejoint le langage universitaire où les enseignants de l'école normale supérieure ou les maîtres de conférences sont aussi appelés des caïmans. Offrir au Tchad, c'est le joli mot de cadonner, c'est de cadeau et de donner. Et les babars au Bénin sont des bouches sucrées. Mais il y a aussi tous ces mots africains qui ont donné des mots dans la langue française classique. Alors, parler de mots africains, c'est une facilité de langage puisqu'il y a en fait 300 groupes linguistiques pour le seul pays du Nigeria, dit Christiane Fipou. Michel Malherbe, dans Les langages de l'humanité, parle de 600 langues pour le groupe des langues bantoues du Cameroun au Kenya et près de 500 pour les divers groupes d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, du Sénégal au Soudan, près de la moitié étant parlée au Nigeria, qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Parmi toutes ces langues, certaines nous ont donné des mots en français. Le safari, qui est un mot swahili, lui-même venu de l'arabe safar, qui signifie voyage, l'igname, qui vient à l'origine d'un mot peul, qui signifie manger, qui a donné le mot français en passant par le portugais. La banane vient d'un mot portugais, lui-même issu du bantou de Guinée. Le gnou vient du haut-tanto. Le mot chimpanzé vient d'un mot de la langue Chiluba qui lui dit chimpanzé, je veux dire grand singe, en République du Congo, nous dit Marjolaine Goué dans un article très intéressant qui s'intitule Les racines africaines de la langue française dans Pensée noire. Pour revenir au chimpanzé, elle nous dit que c'est le naturaliste Fuy de la Brosse qui l'a fait entrer dans la langue française en 1638. Le karité est un mot wolof qui signifie arbre à beurre. La kola est apparue au XVIIe siècle et vient d'une langue du Soudan. Le macaque vient d'un mot bantou. Les akras se retrouvent dans plusieurs langues, en ewe, en fangbe et nago. Akla désigne une galette de maïs écrasée et de condiments frits. En yoruba, akara désigne des beignets de haricots. Choyinka les mentionne dans une saison d'anomie. Et on retrouve ce mot en créole, nous dit Pierre Anglade dans son inventaire étymologique de termes créoles des Caraïbes d'origine africaine. Pour ce qui est des langues d'Océanie, là encore, ce sont souvent des noms d'animaux qui vont être désignés par les langues de la région où ils se trouvent. Le kangourou a été nommé à partir d'un mot de la langue aborigène Gungu Yimitir. Le koala vient du Darug, langue d'un peuple aborigène d'Australie. Le wombat, qui est aussi un marsupial, vient de l'anglais et remonte à une langue d'Australie. Et puis pour ce qui n'est pas d'animal, le boomerang, bien sûr, est aussi un mot emprunté aux aborigènes d'Australie. Les langues d'Amérique. Larry Zimmerman note qu'il y avait environ 300 langues en Amérique du Nord et 1500 en Amérique du Sud à l'arrivée des Européens. Les 300 langues d'Amérique du Nord se subdivisaient en 2 milliers de dialectes. Plus de 600 langues, nous dit Michel Malherbe dans les langages de l'humanité, plus de 600 langues ont aujourd'hui disparu sur le continent américain. On peut citer la phrase de Christian Laborde, une langue qui disparaît, c'est une corde de moins sur la harpe du monde. Le français conserve plusieurs mots de ces langues. L'anorak vient de l'inuktitut, la langue des Inuits, de anoré qui veut dire le vent, comme l'igloo ou le kayak, qui vient aussi de la même langue. Les aztèques nous ont plutôt laissé des mots gourmands, puisque le chocolat, le cacao, la cacahuète ou la tomate viennent du nahuatl, la langue parlée par les aztèques. Tout comme le peyote, ce cactus hallucinogène utilisé pour des cérémonies religieuses. Le caoutchouc provient d'une langue parlée au Pérou et signifie « l'arbre qui pleure ». Plusieurs mots liés aux cultures amérindiennes du Nord viennent de l'algonquin, le tomahawk, le wigwam, le manitou, la squo, mais aussi le mocassin, le totem, est aussi un mot algonquin du Canada. Quelques animaux comme l'opossum ou le wapiti viennent aussi de l'algonquin, le tipi vient du Lakota, l'alpaga, l'idéal, la quinoa et le quinquina viennent du quechua. La patate et le tabac viennent de l'Arawak d'Haïti. Le maïs vient aussi d'une langue d'Haïti, mais du Taïno. La pirogue vient du Caraïbe, qui est une riche région, mais aussi un peuple et une langue, qui a d'ailleurs donné le mot cannibale. La goyave, qui est passée par l'espagnol, vient aussi du Caraïbe. Le cougar, comme le jaguar, le tatou, le sapajou, la sarigue, le piranha, le tangara, qui est un oiseau passereau d'Amérique du Sud. Le tapir et le tamanoir viennent du tupi guarani, tout comme le manioc et même notre bon vieux tapioca. Les langues toupies, il y en a environ 70, sont parlées par divers peuples du Brésil, les toupies et les Guarani, dans la forêt amazonienne et au Paraguay. Et donc, lorsque l'on prononce le nom d'un de ces produits, avant de les manger, on peut les servir, on va faire un tour dans la forêt amazonienne. Quant au topinambour, son nom a été emprunté à une tribu du Brésil, les Tupinambas. Et un tabou vient d'une langue polynésienne désignant le sacré et l'interdit. Il y a aussi des mots venant des langues d'Asie. Le bambou qui vient d'un mot malais, le zébu qui vient du tibétain, le laiton qui vient d'un mot de l'Altaï, du mongol, qui signifie or, alors que le bronze vient du persan. Certains fruits ont des origines asiatiques, comme la mangue qui vient du portugais, mais le mot vient lui-même du malayalam, langue parlée dans le sud de l'Inde, qui vient du tamoul. Le yoga vient d'un mot sanskrit qui signifie jonction, et lorsque vous vous sentez zen, vous prononcez un mot japonais qui vient du chinois, qui vient du sanskrit, et signifie méditation. Et j'en viens aux langues d'Europe. On sait que le yaourt vient du bulgare, la framboise vient du bas francique et signifie fraise au parfum d'ambroisie, le bois vient du bas francique en passant par le latin, mais c'est à l'anglais que je vais m'intéresser et au jeu de cache-cache de la langue anglaise et du français. Les relations difficiles de la langue française avec la langue anglaise viennent-elles de ce que l'une, le français, est considéré comme une langue construite, intellectuelle, alors que l'anglais est une langue populaire sans cesse en mouvement? Y aurait-il chez les défenseurs de la langue française un sentiment de supériorité sur sa voisine populaire? Je n'en crois rien. Construite dans les livres, les écoles et les académies, la langue française garde une partie populaire qu'il est nécessaire de toujours préserver. Elle aussi est toujours en mouvement et donc ne peut critiquer sa voisine d'outre-Manche quand elle lui prête quelques vocables comme elle lui en a emprunté. Car il y a entre le français et l'anglais une relation d'échange qui parfois brouille les pistes, comme dans un jeu de cache-cache où le mot le plus anglais n'est pas celui qu'on pense. Je ne parlerai pas ici de cette création moderne qui est le franglais et qui est plus une solution de facilité qu'un véritable idiome. Je parlerai des mots anglais qui se sont glissés dans la langue française pour l'enrichir et des mots français qui ont fait de même dans la langue anglaise pour parfois nous revenir, en nous faisant croire qu'ils étaient anglais, alors qu'il s'agissait juste de mots français partis faire un voyage de quelques siècles sur les îles britanniques pour nous revenir avec l'accent. Les emprunts du français à l'anglais ne sont pas un phénomène récent, et même si au début du XXe siècle, il n'y avait que 2,5% de mots français issus de l'anglais, les emprunts ont commencé avant 1700, nous indique l'Académie française. L'inquiétude des peuples non anglophones devant cette nouvelle langue de l'économie, comme l'a été le latin en son temps, puis le français, n'est pas nouvelle. On peut au passage parler de la tentative faite par Zamenhof d'utiliser une langue internationale de la communication, faite à partir de multiples langues, l'espéranto, qui aurait sans doute été plus juste. Malheureusement, malgré la réussite du premier congrès d'espéranto en 1905 et de nombreux autres congrès annuels jusqu'en 1913, c'est la guerre de 14, puis la mort de Zamenhof, qui mettent un terme à ce beau projet. Le congrès devait avoir lieu à Paris le 2 août 1914, mais la guerre avait éclaté la veille, le 1er août. Zamenhof mourra avant la fin de la guerre, le 14 avril 1917. On ne saura jamais ce qu'aurait pu devenir la place de l'espéranto, qui existe toujours, bien sûr, mais sans avoir la place espérée, sans la guerre. L'idée, en tout cas, était belle. La suprématie d'une langue vient en fait de la suprématie d'une économie. Après les deux guerres mondiales, c'est la suprématie de l'économie américaine et puis la mondialisation qui ont propulsé l'anglais au premier plan. Michel Serres évoque les langues des classes dominantes dans une interview, c'est un morceau d'interview donné à la Dépêche du Midi et publié dans un article qui est paru il y a 3 jours, qui s'intitule « L'anglais dans la pub, c'est l'overdose ». La classe dominante n'a jamais parlé la même langue que le peuple. Autrefois, il parlait latin et nous français. Maintenant, la classe dominante parle anglais et le français est devenu la langue des pauvres. Je suis d'accord qu'il y ait une langue de communication, mais ce genre de choses commence à mettre le français en péril et c'est dramatique. Fin de citation. Le titre provocateur de cet article, avec un mot anglais et une abréviation, dénonce en réalité et à juste titre les publicités françaises exclusivement en anglais ou utilisant des dialogues en anglais, comme celle d'un café célèbre. Il faut distinguer tous ces problèmes. L'anglais, langue internationale, c'est un fait. L'anglais partout dans la publicité ou les journaux, là, ce n'est pas une fatalité, et comme le suggère Michel Serres, on peut résister aussi aux mauvaises constructions dues à des emprunts anglais mal assimilés. En revanche, l'insertion de mots anglais ou d'origine anglaise dans la langue fait partie du dynamisme d'une langue qui prend ses mots dans le monde entier, y compris dans les pays anglo-saxons. Mais il faut veiller à ce que des constructions anglaises ou des anglicismes ne viennent pas modifier le sens de notre langue. Je cite l'Académie française faisant la distinction entre les emprunts qui enrichissent la langue et ceux qui l'inutilisent. Certains emprunts contribuent à la vie de la langue, quand le français n'a pas d'équivalent tout près ni les moyens d'en fabriquer un qui soit commode, quand ils répondent à un besoin et quand leur sens est tout à fait clair. C'est ainsi que Naudier, cité par Littré, remarquait que « confortable » est un anglicisme très intelligible et très nécessaire à notre langue, où il n'a pas d'équivalent. D'autres sont nuisibles, quand ils sont dus à une recherche de la facilité, ce qui ne fait qu'introduire la confusion. On emploie un anglicisme vague pour ne pas se donner la peine de chercher le terme français existant parmi plusieurs synonymes ou quasi-synonymes. C'est le cas, entre autres, de finaliser, performant, collaboratif, dédié à, dans le sens de consacré à, ou pire encore, de cool, speed, fun. Fin de citation. On peut toujours dire, pour se défendre, qu'en utilisant ces mots, on fait jumps. Et là, ce n'est ni de l'argot moderne, ni du verlan, qu'il ne faut pas oublier, car c'est une autre façon de faire vivre la langue. Et d'ailleurs, l'Académie fait entrer à intervalles réguliers des mots du langage des jeunes qui font partie de notre français. Et là aussi, les choses ne sont pas si simples. Et chaque mot a aussi ses racines. Si un jeune parle de cette go, il utilise un mot bambara qui signifie fille et qui vient lui-même de l'anglais girl. Est-ce un retour de la langue de la colonisation ou des racines de l'Afrique? La langue des jeunes des cités vaut aussi la peine qu'on se penche sur son sens et ses origines pour mieux comprendre ce qui la parle. Cette langue de la banlieue et des cités qui retourne les mots comme les jeunes retournent leurs casquettes, doit-elle être vue comme un signe d'exclusion sociale? Ou au contraire, n'est-ce pas une manière de nous inviter à l'accepter comme sa cousine québécoise, comme un autre moyen de parler de son attachement à une langue que l'on refait sienne, que l'on se réapproprie comme les peuples d'Afrique se sont réappropriés l'anglais et le français en inventant le pidgin, que les Français ont traduit de façon péjorative par du petit nègre, peut-être parce qu'ils ne voulaient pas y voir ce que c'était en réalité, un idiome de résistance, une réappropriation de la langue, comme les l'argot des cités ou le verlan. La langue et ses transformations posent des questions sur la société et surtout sur notre rapport à l'autre. Pour en revenir au mot d'anglais introduit dans le français conventionnel, je reviendrai sur ce mot dans un moment. L'Académie française, sur son site, mentionne les diverses entrées selon les époques. Je vais m'arrêter seulement sur certains mots pour une question de temps et j'espère que cela vous donnera envie d'aller encore plus avant. On peut noter au passage que nombre de mots apparemment anglais qui reviennent dans la langue française sont au départ des mots français entrés un jour dans la langue anglaise. Je pense au mot « air », mot qui a eu une vie mouvementée. Le mot « air » dont nous parlons en France vient d'un mot anglais qui, selon certains étymologistes, dont le Littré, signifierait « mulled hair », c'est-à-dire « poil de taupe », en raison de son caractère velouté. Le même Littré indique à propos de l'origine du mot « moire » Les étymologistes anglais donnent comme sens poil de chèvre, mot étant selon eux le nom d'une chèvre asiatique au poil angora. Au passage, angora est une altération du nom ancien Ankyra, qui est une ville de l'Asie mineure. Et le livret nous indique que la traduction en grec signifie ancre. La ville avait été ainsi appelée à cause des ancres des vaisseaux que Ptolémée, roi d'Égypte, avait envoyé au secours des Galates, qui fut repris par Mithridate. Donc, pour en revenir à la moire et au moère, le mot anglais lui-même viendrait sans doute de l'ancien français mocaillard, qui vient lui-même de l'italien mocaiaro, lui-même venu de l'arabe mochaya, qui signifie choisi. Et voici justement un petit choix des mots venus de l'anglais ou revenus par l'anglais selon les époques. Avant 1700 sont arrivés ou revenus avec un autre sens les mots ajournée, boulingrin, contredanse, c'est-à-dire country dance, danse de campagne, le mot utilisé pour parler d'une contravention n'a rien à voir sur un plan sémantique. Gentleman, gentry, groom, lord, lord-mère, paquebot, yard. Je reviens sur le verbe ajourner, qui est un verbe du début du XIVe siècle, issu de l'expression ajourn, du latin diurnus. Le verbe anglais to adjourn nous avait été emprunté et est attesté en 1330 pour nous revenir plus tard dans le sens de reporter à une date ultérieure. Au départ, cela signifiait simplement se réunir, le dit Coates. Le boulingrin vient de l'anglais bowling green, qui est un endroit gazonné où l'on jouait aux boules. Victor Hugo a parlé mieux que moi du boulingrin et de son origine dans L'homme qui rit, je vous dis donc ce qu'il en dit. De Bowling Green, sa pivère a roulé une boule, nous avons fait boulingrin. On a aujourd'hui ce pré-là dans sa maison, seulement on le met sur une table. Il est en drap, au lieu d'être en gazon, on l'appelle billard. Du reste, on ne voit pas pourquoi, ayant boulevard, boule verte, qui est le même mot que Bowling Green, nous nous sommes donné boulingrin. Il est surprenant qu'un personnage grave comme le dictionnaire ait de ses luxes inutiles. Fin de citation. Mais là, Victor Hugo nous induit en erreur car le boulevard n'a pas la même origine. Il vient, lui, d'un mot néerlandais, bolwerk, qui signifie digue, bastion, rempart. C'était au départ le terre-plein d'un rempart. D'autres mots sont apparus entre 1700 et 1800, dont les termes anesthésie et balbuzard. Entre 1800 et 1850, est apparu le mot autobiographie, pourtant formé de trois mots grecs. Mais le terme est venu au français en passant par l'anglais autobiography, attesté en 1809, et n'est entré dans la langue française qu'au 19e siècle. Sont apparus aussi, entre autres, les termes de bifet, de silicium, de sinecure, de speech et de steamer à cette époque. Entre 1850 et 1900, sont apparus le baseball, le building, le dribbler, le ball, le lift, le lunch, le spinnaker, le verbe visualiser, le anglais to visualize, apparu en français en 1885. Entre 1900 et 1920, sont apparus l'autocar, le chewing-gum, le crawl, la vente, la vitamine. Je m'arrête quelques secondes sur la vitamine. Le mot a été forgé en 1913 par Casimir Spunk, un biochimiste américain d'origine polonaise, à partir de deux mots latins, vita, la vie, et amine, composé organique dérivé de l'ammoniac, tant chimiquement qu'étymologiquement, lui-même désigné à partir de sel trouvé près du temple d'Amon, divinité égyptienne assimilée à Jupiter. Il les avait appelés ainsi parce qu'il pensait pouvoir classer ces substances parmi les amines. Le terme anglais a été corrigé en y enlevant un E pour devenir vitamine et être plus conforme à la nomenclature médico-chimique, la terminaison in étant acceptée parce qu'elle était utilisée dans la désignation de substances neutres ou de nature indéfinie. Et lorsque le mot est revenu en France, bien sûr, le E supprimé par les scientifiques a refait son apparition. Entre 1920 et 1940, sont apparus le break, le bulldozer. Je m'arrête un instant sur le bulldozer, cet appareil utilisé pour raser son hygiène, et qui est désigné à partir du nom donné au départ aux membres d'une organisation américaine blanche raciste qui brutalisait les noirs, le verbe to bulldoze signifiant maltraiter, intimider ou violenter. À l'origine, le mot bulldozer était aussi un mot d'argot américain qui désignait un revolver de gros calibre. Au passage, le revolver est bien sûr aussi d'origine anglaise. Qui vient du verbe to revolve, venu du latin. Sont aussi apparus à cette période les mots chips, covalence, dévaluer, la holding, abréviation de holding company, la société qui détient d'autres sociétés, to hold, le show, l'Oscar, le technicolor. Entre 1940 et 1960, la BAF, le diariste, l'auteur d'un journal intime, issu de l'anglais diary, le jet, le marketing, le terme offshore, le permafrost, je m'y arrête un instant, il vient de l'anglais permanent frost, gel permanent. Et le mot pergélisol, qui est aussi apparu à cette date-là, a été formé sur la structure de permafrost, mais pas sur l'anglais, sur la structure anglaise, mais pas sur les mots anglais, puisqu'il est formé de trois mots agrégés, permanent, gel et sol. Donc c'est sa structure qui est calquée sur l'anglais, et celui qui a forgé le mot est un géographe québécois, Louis-Edmond Amelin. Après 1960, sont entrés le patch, le patchwork, le mot permissif et les pesticides, entre autres choses. Ils ne sont pas entrés que dans le lalage. Donc le pesticide est un mot mêlé de latin puisqu'il est fondé, comme tous les mots terminés en cide, sur le verbe latin caedo qui signifie tuer et sur le mot anglais pest qui désigne un animal et notamment un insecte ou une plante nuisible. Il vient de l'anglais, mais le mot anglais vient, comme le français pest, du latin pestis qui désigne notamment un animal nuisible. L'Académie rappelle qu'aux emprunts proprement dits, il convient d'ajouter les emprunts sémantiques qui consistent à donner une nouvelle acception, anglaise en l'occurrence, à des mots français existants, comme le mot conventionnel, qui existait bien sûr depuis longtemps, mais où l'influence de l'anglais a ajouté un sens. Lorsqu'on parle d'armement conventionnel, c'est dans le sens anglais d'armement classique non nucléaire que l'on utilise ce mot, et non dans le sens français de quelque chose qui résulte d'une convention ou qui est conforme aux conventions. Le mot négocier s'est vu lui aussi augmenter d'un sens issu de l'anglais, au sens de faire du commerce ou d'établir un accord, c'est ajouté le sens de franchir, comme dans l'expression négocier un virage, qui est un calque de l'anglais. On peut y ajouter les réintroductions de termes anciennement empruntés au français par l'anglais, comme challenge ou coach, qui viennent du français au départ, et les calques, traduction terme à terme de l'anglais, comme guerre froide, c'est l'écrivain et journaliste George Orwell, auteur de 1984, qui l'a introduit pour la première fois, le terme Cold War, dans un article publié en 1945. Parmi ces expressions traduites littéralement, il y a aussi les cols blancs et les cols bleus. Les white collar workers désignent en anglais ceux qui avaient un emploi administratif et portaient des cols blancs, par opposition aux blue collar workers, qui étaient des ouvriers qui portaient un col bleu. L'homme de la rue aussi est une traduction littérale d'une expression anglaise. Et les mots du sport nous racontent, dans un français venu de l'anglais, l'histoire de ces sports ou la manière dont ils se jouent, comme le football ou le basketball. Le rugby, si important chez nous, lui, nous renvoie à la ville de Rugby, vous le savez tous, il est né par hasard. Le badminton nous renvoie à Badminton House, dans le Gloucestershire, où ce jeu s'est joué pour la première fois. Ce seraient des officiers de l'armée des Indes qui s'ennuyaient un jour de pluie et qui ont décidé de pratiquer ce jeu en mêlant les règles d'un jeu indien qui se pratiquait avec des balles de laine et les raquettes et le volant du duc de Beaufort, nous dit Jean-Yves Guilain dans son histoire du badminton. Mais les sports ne sont pas seuls à donner lieu à un chassé-croisé entre l'anglais et le français. Bien entendu, la langue de la cuisine et de la gastronomie en Angleterre est française. On parle de bouillon, de gâteau, qui est un grand gâteau fourré, de pamphlet, et bien sûr tous les plats désignés par leur appellation française ont donné aux Anglais l'impression qu'ils ne pourraient les savourer que dans la langue de ceux qui les avaient cuisinés pour la première fois. Mais les Anglais ne sont pas seulement gourmands dans leur langue, ce sont aussi des poètes qui ont emprunté à la langue française des mots désignant certaines formes poétiques, telles que la ballade, venue d'un mot provençal et de l'italien, ou le sonnet, mot italien, mais qui en ancien français désignait une chansonnette. Le mot est dérivé du mot « son », c'est un petit son, en fait. Et on peut noter la différence, ou en anglais, une petite chanson, « little song ». Et on peut noter la différence de point de vue aussi sur le roman, entre l'anglais et le français. Alors que le français a donné à ce type d'œuvre littéraire le nom de roman, en fonction de la langue dans laquelle les premières œuvres de ce type étaient écrites au Moyen-Âge, une langue romane, l'anglais a montré la nouveauté du genre en le désignant d'un mot issu du français « novel ». Et puis il y a la vie quotidienne. Pensons-nous toutes les fois que nous mangeons un sandwich à celui qui a donné son nom à ce repas rapide, long sandwich. C'était en 1762, et John Montagu, comte de Sandwich, aurait passé 24 heures consécutives à jouer en ne se nourrissant que de tranches de bœuf dans des tranches de pain. Et lorsque nous cherchons à nous garer désespérément dans un parking, au lieu de pester contre l'invasion du franglais, sommes-nous prêts à entendre que ce mot est une faute d'anglais et que seul un français désireux de mettre de l'huile sur le feu avait pu l'inventer? Car le mot parking n'existe pas en tant que nom de lieu en anglais, il existe en tant que forme verbale, mais le mot qui désigne le lieu que les Français appellent parking est car park. On pense aussi à dancing, mot un peu démodé aujourd'hui, qui est aussi une erreur française, il ne désigne pas le nom de lieu où l'on danse en anglais, il se dit dance for. En revanche, les Anglais ne se plaignent pas d'accueillir dans leur langue nombre de mots français. La fiancée ne pouvait être que linguistiquement française, tout comme le chaperon d'ailleurs. L'écrivain anglais qui voudra lui aussi jouer à cache-cache avec ses lecteurs prendra un nom de plume. Et si vous voulez avoir bien chaud sous l'édredon, vous parlez encore presque anglais, puisque l'édredon, c'est l'anglais either down, duvet d'éder, qui vient lui-même du suédois either done. Tout ceci pour vous dire que loin d'être en conflit et d'apparaître comme deux ennemis, nos deux langues se parlent beaucoup et même jouent entre elles. Le sport, encore et toujours, relie nos deux termes. Et finalement, la langue française se trouve très bien défendue par la langue anglaise, alors elle peut bien accepter quelques-uns de ses vocables. Et quand vous protestez, nous boycottons tel ou tel produit ou telle firme. Rappelons-nous que le mot boycott nous a été inspiré par ce qui était arrivé au capitaine Charles Boycott, non pas anglais mais irlandais, riche propriétaire du County Mayo, qui, parce qu'il refusait de baisser les loyers, fut mis en quarantaine pendant l'automne 1880, en signe de protestation. Ce sont donc les Irlandais qui pratiquèrent le premier boycott, et c'est à leur action et au nom de celui qui en fut l'objet que nous devons le mot dans notre langue. Et au passage, rappelons-nous aussi que la firme vient elle aussi d'un mot anglais qui signifie maison de commerce et qui a la même origine latine que le mot ferme. L'agriculture et l'industrie se rejoignent par la langue. Et lorsque nous roulons sur le macadam, nous pouvons nous rappeler que le mot qui désigne le revêtement de nos voies de circulation a été formé d'après le nom de son inventeur, John Newton Macadam, ingénieur écossais, né en 1756, qui a inventé le processus de macadamisation. Le tarmac a la même origine, puisqu'il s'agit d'une compression de deux mots, tar, qui signifie le goudron, et mac, qui est l'abréviation de macadam. Tous les clubs nous rappellent leur origine anglaise. Quant aux clowns qui nous font rire depuis notre enfance, ils viennent d'un mot anglais qui signifie au départ paysan, puis farceur. Et peut-être que Shakespeare n'est pas étranger au glissement de sens du terme, car les paysans qu'il introduit dans ses pièces font souvent partie de scènes de comédie. Et dans ce patchwork d'étymologie, rappelons-nous que le patchwork désigne littéralement en anglais un ouvrage en morceaux. Et le français n'étant pas simple dans sa multiplicité, il ne faut pas confondre ce patch-là avec le mot qui apparaît dans patchouli, issu de l'anglais, ou plutôt adapté du mot patchli. Dans ce cas, le mot patch est un autre terme venu du tamoul, patch signifiant vert et ilai signifiant feuille. L'Angleterre étant une nation de marins, sa langue nous a fourni un certain nombre de termes, notamment certains désignant des embarcations, alors que la barque, on l'a vu, nous vient d'Égypte, et la felouque est un mot arabe au départ qui signifie navire et vient d'un verbe qui signifie fendre les ondes. Beaucoup de termes nautiques viennent du nord, et notamment de l'anglais. Le yacht, bien sûr, mais aussi le paquebot, qui vient des termes anglais packet boat, littéralement navire qui transporte du courrier, des colis, puisque c'était sa fonction au départ. Le tanker, qui, comme le tank, vient de l'anglais réservoir. Mais il y a quand même une quantité de mots nautiques venus dès le Moyen-Âge enrichir l'ancien français et rester dans le français moderne, des mots comme agré, cinglé, cric, étrave, quille et d'autres, qui viennent du vieux norrois qui a aussi influencé la langue anglaise, et certains sont communs aux deux langues, comme le fjord. Quant au français du Québec, l'une des régions du monde qui défend le mieux la langue française en résistant contre tout l'anglais qui la cerne, certaines de ces expressions sont pourtant des traductions littérales de l'anglais. Ainsi, si vous dites merci à un Québécois, il ne vous répondra pas de rien, comme la plupart des Français, ni avec plaisir, comme les Toulousains, mais bienvenue, qui est une traduction littérale du welcome répondu par les Anglais quand vous les remerciez. Les bécosses, c'est la backhouse anglaise, les toilettes extérieures à la maison. La slosh, c'est la neige fondue, slash en anglais. Se faire renvoyer, c'est se faire slacker, du mot anglais slack. Un shed, c'est une petite cabane, c'est le mot anglais. Et puis, il y a des glissements. Le bureau de tabac se dit tabagie. La tabagie désigne aujourd'hui, en français moderne, la dépendance au tabac. Mais au départ, il s'agissait d'un mot algonquin qui désignait un festin. Au milieu du XVIIe siècle, c'est devenu le lieu où l'on allait fumer et boire. Et aujourd'hui, c'est la dépendance au tabac en France et c'est un bureau de tabac au Québec. Pour conclure, avant de boycotter les mots anglais de la langue française, avant d'avoir peur d'un renouveau occitan qui nous ramène aux racines de cette langue française que nous aimons, essayons de voir dans ces mots et ces langues venues d'ailleurs ou de chez nous, dans ce métissage créateur de la vie de la langue, le partage d'une terre qui ne nous appartient pas, mais à laquelle nous appartenons et dont tous les peuples ont la garde. Leurs langues, toutes leurs langues, quand elles entrent dans la nôtre, ont un parfum de calumet, la fragilité du roseau et la force de la paix. Rappelons-nous les mots de Michel Serres. Faisons la paix avec le monde pour nous sauvegarder et la paix entre nous pour sauvegarder le monde. La sauvegarde d'une langue ne peut passer que par la conscience de sa diversité. Les mots voyagent, les mots bougent et enrichissent la langue de tous les voyages faits par ceux qui la parlent, qui vont rapporter des mots comme des spécimens botaniques qu'ils plantent et font pousser. Les mots rapportés entrent dans la langue et ceux qui la parlent les font vivre et parlent ainsi un peu de chacune des langues du monde, tout en rendant hommage à la fois à ceux qui parlent ces langues, là-bas, ailleurs, et à ceux qui en ont rapporté des échantillons qu'ils ont offerts à la langue française. Ils rendent hommage à cette langue française libre et nomade. Merci et pardon d'avoir été un peu long. Thank you.